ces moments. Merci parce que tu disposes ce temps pour nous, Éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, toi qui nous as accordé ton souffle de vie, Seigneur. Nous voulons en ce moment te recommander ce moment de méditation, de partage. Que l'Esprit de Dieu, que ton Esprit, Seigneur, soit avec nous, soit au milieu de nous. Laisse que tout ce que nous allons faire, Éternel, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entendre, soit pour la gloire de ton nom. Bénis le modérateur et bénis toutes les familles connectées et celles qui vont se connecter aussi, Seigneur. Nous te rendons toute gloire. À toi l'honneur, la magnificence, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
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 Merci pour la prière, ma soeur Suzanne Plito. Mes frères et sœurs, prenons notre retour en Genèse. Nous sommes, c'est un long texte que nous allons lire. Genèse, chapitre 34, du premier verset jusqu'au verset 31. Monsieur Kaba, tu peux nous lire le texte?
Je peux lire.
Oui, allez-y.
Et je lis dans Louis II. Genèse 34, 1 à 31. Dina et les six Sichémites. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince de pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob venaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Les hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina. Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accorde-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous. Et nous formerons un seul peuple. Et si vous ne voulez pas nous écouter et vous faites circoncis, vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup pour la lecture, Monsieur Kaba.
Merci, papa.
À présent, je suis en train de chercher le frère Pasteur José, je ne le vois pas, donc nous pouvons continuer la méditation.
Il fallait le prendre, j'ai oublié. Papa.
Ok. Donc, nous continuons, c'est difficile de le reprendre maintenant sur la deuxième ligne. Ok, donc frères et sœurs, nous voici avec une histoire vraiment triste. La fille de Jacob. Léa lui avait enfanté, Dina, va être déshonorée là où ils sont à Shechem. Un consentement veut être fait avec les gens pour qu'ils se fassent circoncire, mais c'est un consentement avec ruse. Et qu'est-ce que nous allons constater? Les deux fils de Jacob vont, pendant que les autres souffrent, ils vont aller tuer tous les mâles, tous les hommes en fait, parce qu'ils avaient accepté les consentements, ils avaient accepté de se faire circoncir. Ils vont être tous tués. Quel drame, quel dégât dans ce pays, dans ce village. Et à la fin, nous voyons, Jacob n'est pas content avec la façon dont cela s'est passé. Jacob va, et même nous verrons plus loin quand nous terminerons le livre de Genèse, quand il va bénir ses enfants, il va revenir sur ce que ses enfants ont fait. Jacob n'avait pas aimé cela. Nous allons, pour ceux qui viennent de se connecter, nous venions d'écouter la lecture en Genèse, au chapitre 34, du premier verset jusqu'au verset 31. C'est un long texte. Et nous pouvons, les questions qui nous ont été proposées pour approfondir ce texte, la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte? Et aussi la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte? Voilà, frères et sœurs, nous pouvons subdiviser ce texte en deux parties pour que nous puissions le faciliter. Allons-y dans un premier temps avec le 15, premier verset. Nous pouvons prendre dans le 15, premier verset, n'importe quel verset, n'allons pas suivre l'ordre, sinon n'allons pas terminer l'idée, les leçons que le Seigneur voudrait que nous puissions tirer de cette histoire. Dans le 15, premier verset, nous pouvons aller de l'avant et prendre n'importe quel verset, le partager. Quand nous serons au milieu de notre méditation, nous prendrons la deuxième partie et nous ferons la même chose. Parce que le texte est long, nous ne pouvons pas aller verset par verset. C'est vraiment difficile. Voilà, frères et sœurs, commençons bien sûr dès le départ avec la présentation de Dina. Et puis, un peu plus loin, nous pouvons maintenant parler de cet événement qui est vraiment un grand événement pour eux. Rappelons-nous aussi la loi qui avait été donnée au peuple d'Israël de ne pas donner leurs filles aux incirconcis en mariage et même leurs fils de ne pas prendre les filles des incirconcis. Nous avons vu Abraham a fait la même chose quand il a envoyé les serviteurs épouser la femme pour son fils Isaac. Et même quand Jacob était au moment de se marier, on lui a dit, va là où tu peux te marier. Donc le principe, il garde ce principe. Nous pouvons maintenant, frères et sœurs, demander la parole et aller de l'avant dans la méditation. Que pendant que nous sommes en train de regarder le texte et de réfléchir, dès le départ, dans les deux premiers versets, nous voyons Dina, qui était la fille de Léa. Rappelons-nous que Jacob avait deux femmes et deux concubines, donc les servantes étaient aussi étaient comptées parmi ces femmes, mais Dina, l'unique fille en fait de Léa, qu'elle a enfantée à Jacob, va sortir pour voir les filles du pays. Là, ce que nous voyons d'emblée, c'est que elle s'expose elle-même. Elle va circuler elle-même pour visiter les filles du pays. D'emblée, nous voyons un exemple à ne pas suivre. À ne pas suivre dans le sens qu'elle pouvait ne fût-ce que prendre un de ses frères. Ils étaient très nombreux, ses frères. Elle pouvait dire à un de ses frères, si tu peux m'accompagner, je vais une fois aller visiter. J'ai vu qu'il y a beaucoup de filles, j'aimerais parler avec elles, tisser des amitiés avec ces filles, je vais parler avec elles. Non, mais elle va partir elle-même. Et quand elle va partir elle-même, le prince, le fils du roi de ce lieu, va réellement la déshonorer. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Un endroit où il y a la sécurité, nous devons utiliser la sagesse, et l'insécurité plutôt. Nous devons utiliser la sagesse pour ne pas y aller seul. C'est valable pour les femmes, valable pour les hommes. Voilà, d'emblée, nous voyons un exemple à ne pas suivre qui va créer beaucoup de problèmes à l'endroit où ces gens sont arrivés. Voilà, frères et sœurs, dès le départ, nous commençons avec des faits où la fille a été déshonorée et nous allons de l'avant. Papa Thomas, tu peux prendre la parole, s'il te plaît.
Oui, moi, je vois dans l'acte de Sichem la réaction du papa qui vient négocier le mariage après le viol. Je ne vois pas de regret, je ne vois pas de demande de pardon. Au contraire, il vient demander la main sans trouver dans l'acte là un péché ou bien quelque chose de déshonorant, parce que c'est sa culture, c'est leur culture. Le garçon a violé la fille comme il l'aime, il demande qu'on paye la dot et la vie continue. Mais pour les enfants de Jacob, c'est une insulte. Et Jacob lui-même a attendu que ses enfants viennent. Il leur a dit ça parce qu'il s'attendait à une réaction. Donc ce que j'apprends ici, c'est d'annoncer l'évangile aux gens auprès de qui je me trouve. Si on ne leur enseigne pas la parole de Dieu, si nous ne communiquons pas la loi de Dieu aux gens, si nous ne disons pas aux gens que nous sommes des chrétiens et à quoi nous croyons et comment on devait vivre, en ce moment-là, le monde va trouver normal de voler, de piller, de faire la prostitution et tout ça parce que les gens ici trouvent que c'est un mode de vie. Je ne vois pas alors que Israël habite là-bas et sa famille, on ne voit pas une influence de la foi de leur Dieu dans le peuple là auprès desquels ils habitent. Et je pense que notre silence vis-à-vis de l'évangile auprès du peuple avec lequel nous vivons peut devenir finalement nuisible ou ça peut nous corrompre nous-mêmes. Merci.
Oui, merci vraiment, papa Thomas. Les constats, ils sont effectivement arrivés, mais quelle influence ils ont sur les autres peuples, sauf quand l'instant est arrivé, ils vont maintenant leur dire nous ne pouvons pas déshonorer notre fille en donnant la fille à l'incirconcis. Mais avant ça, on ne voit pas l'influence. Il y a bien sûr le mixage. Et le mixage, c'est ce qui a facilité Dina. Et pour aller visiter les autres sans se gêner, sans savoir comment vivent-ils, sans savoir quelles sont les mœurs sur lesquelles sont fondées et toute leur vie. Voilà. Là, c'est encore un exemple que les enfants d'Israël qui sont arrivés à cet endroit ne nous donnent pas. Au contraire, ils se fréquentent et c'est là que Dina a pris goût de fréquentation et l'instant est arrivé. Voilà, on est en maintenant, l'amour est créé entre les deux jeunes gens, Dina et le prince. L'amour est créé parce que même Dina ne se propose pas de rester et de rentrer dans sa famille. Elle veut rester chez le prince. Voilà, l'instant est là. Jacob va la prendre, ne va pas garder le silence jusqu'au retour de ses enfants qui étaient au champ. Voilà la suite, quelles leçons nous pouvons tirer de la suite. Papa Gaston, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis au verset 3. Les princes, son cœur s'attacha à Dinan. Après l'avoir violé, déshonoré. Son cœur s'attacha à la fille et il demanda à son père pour que cette fille devienne sa femme. Ce qui m'interpelle ici, c'est que je dois faire des choses selon le bon sens, selon certaines valeurs de la communauté, de la société. Et je dois faire attention à ne pas brûler les étapes, que je ne fasse pas les choses selon mon ego, de telle sorte que je risquerais même de rater ce que je pouvais avoir facilement parce que j'ai voulu brûler les étapes, je n'ai pas voulu attendre la promesse qui m'a été faite par l'Éternel Dieu des armées. Et je ne brûle pas les étapes. Parce que je me pose la question, si ce prince avait vu Dina, en avait parlé à son père, et si son père était venu bonnement en tant que papa et roi, voir Jacob parler avec lui, je pense que les choses se seraient passées autrement. Mais comme il avait déjà brûlé les étapes, il force maintenant son père à aller camoufler, couvrir cet affront. Et les choses ne pouvaient pas marcher comme elles devaient l'être. Amen.
Amen. Merci, Papa Gaston. Ça, ce n'est pas de l'amour, en fait, c'est tout simplement de la convoitise. C'est pas vraiment de l'amour parce que après avoir brûlé les étapes comme le frère Gaston est en train de nous expliquer, et beaucoup de parents ont utilisé ce genre d'actes pour pousser les enfants à aller dans le mariage, mais sans amour du tout. Donc quand nous regardons les mauvaises fondations de mariage qui ont causé beaucoup d'ennuis à la société, à notre génération, c'est ce genre de mariage précipité que nous devons vraiment éviter parce qu'il y a une grossesse prématurée, parce qu'il y a eu ceci. Poussons les enfants à se marier, mais sans amour. Merci beaucoup, maman. Christine, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, merci. Pour la parole, pasteur Célé, mais moi, je suis en train de continuer l'idée, mais pour parler, prendre dans l'autre volet, moi, j'apprécie l'exemple d'Amor qui a appris. Nous avons entendu, vu des enfants violés, et ces hommes-là ne sont plus revenus. Souvenez-vous d'Amon qui a violé sa demi-sœur. Il est parti, après, c'était la haine. Mais ici, quand même, l'initiative est bonne. Ils devraient normalement commencer par ici, mais malheureusement, le vin est tiré, il faut le boire. Donc, il est revenu à la raison, disons, pour dire, parce que quand nous voyons le propos qui suit au verset 11, j'anticipe là-bas, on nous dit que Sichem disait au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux. Et je donnerai ce que vous me direz. 12. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents. Je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour la femme, la jeune fille. C'est-à-dire, quelque part, il avait des gens sans foi ni loi. Ils se sont comportés de leur façon. En tant que prince, ils pouvaient peut-être penser que je peux aller sur toutes les filles comme je veux. Mais du fait de revenir à la raison, il pouvait saisir de cette occasion pour que les choses abîmées se remettent sur place. Parce qu'il est conscient. Pourquoi il doit demander des fortes dotes? Pourquoi exigez-moi une forte dot? Parce que j'ai mal fait. Amen.
Amen. Amen. Oui, cette approche, effectivement, c'est un exemple à suivre. Le parent ou le père du prince ici vient réellement officiellement pour demander la main aux parents, en fait, aux frères Jacob a demandé officiellement la main pour que son fils puisse épouser. Et c'est un exemple à suivre, mais sachons toujours que pour les enfants d'Israël, un homme incirconcis ne peut pas faire alliance avec un homme incirconcis. Voilà. Papa José des États-Unis, quelque chose à dire à ce niveau?
Ça va venir.
Ok, merci. Oui, Papa Thomas, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, je voudrais parler de l'incontinence sexuelle, la passion et la convoitise de la chair qu'il y a ici. Elle est forte. Le garçon a enlevé la fille et l'a violée. Il ne sait pas se contenir. Le chrétien aujourd'hui est encore tenté par le péché du sexe dans le cadre de l'adultère, l'infidélité sexuelle, l'immoralité sexuelle, les relations sexuelles en dehors du mariage, la pornographie et beaucoup de moyens que le diable utilise. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est en nous et le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc, puisse Dieu nous donner cette puissance quand nous sommes attaqués par un péché, par une tentation sur des visibilités, des visions, de regarder le sexe opposé ou de méditer une mauvaise pensée. Que Dieu nous donne la puissance et la force de vaincre cela et d'être fidèle à notre époux ou épouse, ou si on n'est pas marié, la Bible dit pour ne pas brûler, il faut se marier. Mais que Dieu nous délivre de cet esprit d'être gagné complètement à la convoitise de la chair et au péché sexuel, et rester vaincu dans cela. Mais au contraire, nous avons la victoire en Christ et nous devons être en mesure d'avoir la maîtrise de soi pour rester fidèle par rapport au péché sexuel, puisque c'est un péché double. On pêche contre Dieu et on pêche contre son corps. Merci.
Merci beaucoup, Thomas. C'est vraiment bien de rechercher la contenance, la maîtrise de soi devant toutes les tentations, devant toutes les expositions, partout où on est, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit au travail, partout. Ok. Papa Joseph, le moment.
Oui.
Ok, allez-y.
Ok, je suis au verset 13, les fils de Jacob répondent au fils de Omer, c'est-à-dire au garçon qui a fait ce qu'il a fait. Mais la Bible souligne que ils utilisent la ruse. Les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à son père. Oui, avec ruse, c'est pour... Ils ont fait semblant de les accepter, de les aimer, pour que les deux puissent vivre mari et femme. Mais ils avaient des arrière-pensées. Ici, j'aimerais dire que lorsque même nous, chrétiens, lorsque nous avons des arrière-pensées, là, nous faisons déjà quelque chose de mauvais. Lorsque nous avons utilisé la ruse, quand je m'adresse à ma sœur, quand je m'adresse à mon frère, avec l'idée que lorsque le frère va accepter, j'aurai ça. Mais je ne présente pas cette chose-là, mais je la cache et je présente autre chose. Là, c'est déjà mauvais, c'est un péché déjà qui est conçu, mais qui va s'éclater plus tard. On verra dans le texte. Donc, en un mot, bien-aimés, n'utilisons pas la ruse dans nos relations, quelles que soient ces relations, ou en famille, ou avec des frères et des sœurs dans la foi, comme nous sommes dans le FIMES, pas de ruse. C'est un péché. Merci.
Merci beaucoup. Pas de ruse, c'est vraiment un péché. On peut faire beaucoup de choses avec ruse. On sait ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans l'église, que ce soit au sein du FIMES. On parle de quelque chose, mais on sait que ce n'est pas réellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On recherche autre chose. On recherche la destruction, on recherche que le frère ou le responsable ou tel soit ridiculisé, soit mis à nu. Les ruses sont vraiment très, très nombreuses. Ok, merci beaucoup, Papa José. Avant de donner la parole au pasteur Richard, je nous dis que nous pouvons maintenant attaquer la deuxième partie. La deuxième partie qui va du verset 16 jusqu'au verset 31. Si vous êtes connecté en retard, que ce soit sur le plateau de FIMES ou à la radio, nous sommes en train de méditer dans le livre de Genèse au chapitre 34, du premier verset jusqu'au verset 31, donc tous les chapitres. Nous parcourons en fait tous les chapitres et cet événement qui s'est déroulé dans la famille d'Israël. Voilà, Papa Richard, tu as la parole, s'il te plaît.
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa, Pasteur Célestin, pour la parole. Je rentre encore, si vous me permettez, dans la première partie, le verset 7, qui se termine par cette expression, « Ce qui est une chose inadmissible ». Il doit avoir à nous, les enfants de Dieu, les choses que nous ne pouvons pas admettre, quel que soit quoi. Il me semble que dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, nous sommes devenus trop tolérants. On tolère ce film, le film qui a des mots sales, bon, on accepte quand même. Et il y a un peu de nudité, on accepte. Et donc, petit à petit, vous remarquez la stratégie diabolique que Amor est en train de faire. Oui, je connais que ce qu'on a fait, c'est mal, mais ce n'est pas grave. Donc, voici ce que nous allons faire, nous allons vous donner. Et petit à petit, on ouvre de grandes portes à l'ennemi. Donc, nous devons avoir des choses. Qu'est-ce qui sont des choses inadmissibles dans ma vie? C'est-à-dire, par exemple, c'est inadmissible à un enfant de Dieu de rester à la maison au jour de dimanche. C'est inadmissible à un enfant de Dieu de parcourir toute la journée, il n'a pas prié. Donc, quand nous commençons à faire cela, nous commençons à nous discipliner. Donc, nous devons vraiment assujettir notre corps à une discipline qui nous aide à montrer la différence. C'est vrai, les gens du monde vont dire, écoute, hein, tu exagères un peu trop. Ouais, ils disent ça parce qu'ils veulent que nous puissions tolérer. La tolérance n'est pas une pratique dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons une vie rigide, disciplinée, avec les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et quand nous ouvrons cette porte de la tolérance, nous ne savons pas, peut-être que nous allons tolérer. Je vais donner un exemple aux États-Unis. Quelqu'un qui me disait vers les années 1960, donc on ne peut pas montrer dans la télévision un homme et une femme entrer dans la chambre. C'était inadmissible. Mais aujourd'hui, on montre presque tout. L'acte sexuel, parce que les gens ont commencé à tolérer petit à petit, au point où maintenant, nous sommes bombardés par même des publicités qui n'ont rien à voir avec la nudité. Donc, mais de l'autre côté, nous, en tant qu'enfant de Dieu, je dois vous revoir cette nuit. Quelles sont les choses où, jusque-là, je regarde comme inadmissibles? Quelles sont les choses que je dois ajouter dans cette liste que désormais, à partir d'aujourd'hui, ça devient inadmissible. C'est ce qui fait la différence entre nous, les enfants du royaume de Dieu, et ceux-là qui partent dans les églises prétendant être des enfants de Dieu. Merci.
Merci beaucoup, Papa Richard. C'est très, très profond. Des choses vraiment inadmissibles que tous ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes aujourd'hui trouvent normal. Donc, on reste à la maison. Tout témoin, on n'est pas allé à l'église, mais on se dit chrétien. J'ai vu même un de nos membres, toute l'année, il est dans la ville, je ne sais même pas où est-ce qu'il est, mais quand il a deuil, il appelle, oh pasteur, j'ai le deuil. Il me dit, mais tu es où? Oh, je suis là. Il me dit, mais je ne t'ai jamais vu toute l'année. Et on se dit chrétien, parce que on a les noms de chrétiens. Donc il y a des choses vraiment inadmissibles qu'on ne peut plus tolérer, qu'on ne peut même pas tolérer dans l'église. Tout témoin, on part à l'église, on n'a ni offrande ni dîme, et on se dit chrétien. Ça, ce sont des choses inadmissibles. On peut même continuer la liste, il y en a vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Nous revenons encore à ceux qui ont déjà parlé. Papa Gaston, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis au verset, je suis encore dans la première partie, au verset 12 et 14. Et je suis interpellé en tant que chrétien dans la résolution de certains conflits. Et ici, exiger de moi une forte dot, beaucoup de présents. Lorsque un mal est commis, l'argent ne résout pas tout. Un petit mot, un simple pardon, pardonnez-moi de ce que mon fils a commis, de ce que j'ai commis, peut mieux résoudre les problèmes que l'argent. Et nous couvrons beaucoup de mal sous couvert de l'argent. Non, nous voulons donner une forte dot, beaucoup de présents. Et ce qui m'interpelle aussi, je vois ici la valeur de la dot, même si ce mot est entré et en voie de disparition, même pour certains chrétiens qui sont, nous qui sommes en Occident. Au verset 14, je suis encore interpellé par comment négocier certains contrats. Et j'ai perdu aussi certains bons contrats parce que je ne les avais pas bien amorcés. Je n'avais pas une longueur d'avance sur certaines clauses. Et ma prière que je demande à mon Dieu de me donner la révélation dans certains contrats, parce que ici, les enfants de Jacob étaient conscients que ce que l'autre, les princes, avaient fait, ils n'avaient pas approuvé. Mais ils n'ont pas manifesté directement leur désaccord. Ils sont partis, comme le pasteur José l'a dit, ils avaient d'autres intentions. Et une fois les contrats conclus, ils ont montré alors la face B de ce qu'ils avaient caché. Et je dois veiller en tant qu'enfant de Dieu dans ce que je peux faire maintenant dans les contrats, même dans les affaires, à être conscient et demander la grâce du Seigneur pour me révéler les clauses qui peuvent me devenir fatales ou causer des problèmes plus tard. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Gaston. L'argent ne résout pas tout. Nous devons savoir quels sont les termes que nous pouvons utiliser, les termes de pardon, les termes où nous devons regarder qu'est-ce que la loi de Dieu dit, hein, au lieu de présenter juste l'argent comme si l'argent peut tout résoudre.
Amen.
Merci, Papa Thomas. Tu as la parole.
Je vais rentrer au premier verset. La fille de Léa Dina, elle est sortie pour voir les filles du pays. C'est un esprit de promenade, c'est un esprit de vagabondage, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est une sortie sans objectif de Dieu. Il est sorti voir, le but c'est voir les filles du pays. Et puis, c'est un garçon qui le voit maintenant qui l'accouche. De force. C'est cet esprit ici que Dieu a donné à Caïn qu'il devienne un homme qui vagabonde partout. Il va être errant. Elle est en train d'errer. Elle est sortie sans objectif et sans direction de la part de Dieu. Moïse va sortir quand il va arriver en Exode. C'est avec la direction. Dieu était devant. Le peuple, la nuit par le feu et la journée par la nuit. Mais ici, c'est ça l'esprit qu'il y avait dans David. Quand il est allé se promener sur la toiture et voir une femme qui se lave dans une autre toiture en temps de guerre, c'est ça l'esprit de vagabondage. C'est un esprit errant, ce n'est pas bon. Parce que Satan a l'esprit de promenade. Quand Dieu s'est réunissé au ciel, en Job 1, 6. Lui aussi est allé là-bas, mais Dieu va lui demander, Satan, d'où viens-tu? Il a dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, c'est comme ça que Dieu va lui demander s'il a vu Job. Il a dit, oui, je l'ai vu, et maintenant il va attraper Job. Parce que Pierre va nous dire, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, mes amis, que Dieu nous garde de l'esprit de vagabondage, de promenade de santé. Non, le chrétien ne fait pas de promenade de santé. Le chrétien sait qu'il est 21 heures méditation. Tout à l'heure, là, 22 heures, quart, intercession. Jusqu'à minuit, jusqu'à, je ne sais pas, 3 heures du matin. Le chrétien doit avoir la discipline, un programme tracé par le Saint-Esprit et non pas être des gens, on va seulement au magasin comme ça, on va seulement au cinéma, on va seulement aux choses sans direction du Saint-Esprit. Merci.
Amen. Nous devons, on doit être précis dans ce qu'on fait, on doit être inspiré par le Saint-Esprit, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous devons faire au lieu d'aller tuer le temps comme si nous n'avons rien à faire pour le Seigneur. Voilà, nous sommes en train de chercher à atterrir, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Donc, Papa José, j'ai entendu comme si tu voulais encore intervenir. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Ma
oui.
Sœur Suzanne, tu as la parole. Ça sera suivi de Maman Christine. Et nous allons terminer avec Papa José ce soir.
Oui, merci beaucoup, papa. Moi, je vais juste prendre toute la partie du verset 15 jusqu'au verset 18. Bref, c'est un peu ce qui s'est passé avec le roi et son fils. Je voudrais dire qu'ils sont tombés dans le piège aussi des enfants, des fils de Jacob. Parce qu'il voulait avoir quelque chose. Donc, il voulait absolument avoir la fille et l'épouser aussi. Mais ils sont tombés dans le piège. Et étant donné qu'ils étaient prêts à tout donner, à accepter n'importe quoi, juste pour avoir la fille, et voilà qu'ils sont tombés dans ce piège où on leur demandait d'être circoncis. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans les pièges souvent que le diable ou les personnes aussi nous tendent en nous, parce qu'on veut absolument obtenir quelque chose. Donc je crois que ça aussi c'est quelque chose dans, en tant qu'enfant de Dieu dans notre vie, nous devons faire très attention. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire ressortir encore dans ce passage ici. Et voilà qu'ils sont tombés dans ce piège en étant circoncis. Ils se sont fait circoncire, mais ils n'avaient plus la force, même quand on les a attaqués là. Et je crois que même étant circoncis, étant âgés, grandes personnes, c'est différent quand on circoncit un enfant. Donc, je crois qu'ils n'avaient même plus la force même de se battre, la force de se défendre. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut faire très attention aux pièges tendus dans notre vie. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Suzanne. Beaucoup de pièges sont tendus aux enfants de Dieu. Nous devons être prudents de savoir est-ce que ça, c'est un piège. Et là, le Saint-Esprit peut vraiment beaucoup, beaucoup nous parler. Et le Seigneur nous montre beaucoup de pièges tendus dans le rêve. Si vraiment nous avons confié la journée entre les mains du Seigneur, il peut nous révéler beaucoup de pièges qui nous sont tendus sur la route. Merci. Maman Christine, brièvement, il faut vite terminer. Nous allons terminer à temps.
Merci beaucoup, Pasteur Serré, pour la parole. Bien-aimé, je suis au verset 15. Ici, c'est le close qui m'intéresse beaucoup. Et nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous devenez comme nous. Et cette exigence, je me dis que c'est vrai qu'ici, c'est malvenu parce que c'était rusé. Mais quand nous sommes chrétiens, nous devons suivre cet exemple. Nous n'allons pas donner nos enfants aux païens. Nous n'allons pas donner nos enfants à qui n'a pas la même façon de voir les choses comme nous. Pour qu'à la fin, quand nous voyons que ça ne tient pas dans le mariage, nous disons non, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Non, c'est dès le départ qu'il faut mettre ces principes, à nu, quoi. Comme ça, on sait. Et bien démarrer au lieu, c'est bien que vous soyez comme nous. Nous réfléchissons, nous résolvons des problèmes conformément à la volonté de Dieu. C'est comme ça, normalement, que ça doit se faire. Amen.
Amen. Merci, merci beaucoup. C'est un principe très important que nous devons appliquer dans notre génération aujourd'hui encore. Nous ne devons vraiment pas donner nos fils et nos filles à n'importe qui, c'est la personne qui n'est pas dans la même foi que nous. Nous voyons des gens qui se disent chrétiennes, qui donnent leur fille aux musulmans, qui donnent leur fille aux bouddhistes. C'est vraiment inadmissible. Là encore, une chose inadmissible dans le texte. Je ne veux pas, José, brièvement, dire quelque chose et puis on termine.
Oui, oui. Je donne la parole à Jacob, le père. Oui, au verset 30, là, il s'adresse à Siméon et à Lévi. Ce sont les deux brigands qui ont massacré la population. Ils ont été aidés par les autres enfants. Papa, il dit, vous m'avez causé du tort en me rendant au Dieu aux habitants de la région. Il continue. Oui, il parle là en tant que père. Et il s'adresse à ces deux enfants violents. Oui, bien-aimés, nous devons avoir le courage de nous adresser aux enfants qui ont mal agi. Parce que tout va retomber sur Israël, c'est Jacob. Les enfants, oui, les enfants ont mal fait, mais papa. Donc, tout tourne autour de papa ou maman parce que nous sommes responsables. Dans ces cas, nous devons vraiment veiller. Nous devons veiller. Est-ce que papa, il avait su le projet des enfants? Nous ne savons pas. Merci.
Merci beaucoup, papa. C'est vraiment important de montrer ce que Jacob a fait. Il a parlé clairement à ses enfants qu'il était mécontent du principe, de la façon dont ils ont résolu le problème. Mécontent. Et même dans la... Quand nous regardons, quand il va bénir tous ses enfants à la fin de sa vie, Genèse 49, verset 5, il va s'adresser aux deux.
Okay.
Et à Lévi. Les deux vont leur adresser la parole. Il va leur dire que leur glaive sont des instruments de violence. Et puis que mon âme n'ait point part à leur conciliambule. Donc, là, je faisais ce qu'ils ont fait. On pouvait résoudre le problème autrement. Ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Pas dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Au verset 7 de Genèse 49, il va leur dire, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, je les disséminerai dans Israël. Donc, ce qu'ils vont recevoir, et même jusqu'à la fin, le Père va leur laisser ce qu'ils ont fait, ce n'était pas correct. Et nous devons avoir ce courage de dire des choses vraies à nos enfants et leur parler et leur montrer qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Merci beaucoup, Papa José. Nous nous arrêtons là de ce texte, frères et sœurs, et nous allons regarder les textes de demain. Demain, nous allons entendre Genèse 35, premier verset jusqu'au verset 15. Nous allons méditer, soit seul, soit en famille. Et le dimanche soir, nous allons nous retrouver pour terminer le chapitre 35 de Genèse, du verset 16 jusqu'au verset 29. Ce dimanche soir. À la radio, nous voulons saluer le frère et sœur d'Alberta, Québec, de North Carolina et de Missouri. Là où vous êtes. Bientôt, nous allons démarrer la veillée. La veillée sera retransmise en direct à la radio. Vous pouvez rester connecté et prier avec nous. Nous allons avoir 5 heures, intercalées bien sûr par une méditation, 5 heures de prière. Voilà les choses admissibles que les enfants qui doivent attirer les enfants de Dieu.
Intercalées par l'exhortation.
Oui, intercalé par l'exhortation, oui. Merci. Voilà, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et nous bénissons le Seigneur pour toutes les richesses. Évitons les ruses dans la vie chrétienne. Soyons transparents, aimons sincèrement, donnons des instructions claires à nos enfants, parlons régulièrement à nos enfants, prions pour éviter cet esprit de vagabondage qui continue à créer beaucoup, beaucoup de problèmes, les enfants qui sortent pour ne rien faire, juste se promener, et il y a souvent beaucoup, beaucoup de problèmes. Et aussi, regardons quelles sont les choses inadmissibles et que nous sommes en train d'admettre aujourd'hui. Que ce soit dans notre chef personnel, que ce soit dans le chef de nos enfants, il y a des choses vraiment inadmissibles dans la foi chrétienne. En tant que famille chrétienne, quand on appartient à une famille chrétienne, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme toutes les autres familles. Et nous pouvons continuer à parler à nos enfants de cette manière-là, continuer à parler aussi à nos membres de cette manière-là. Nous ne pouvons pas rester toute la semaine sans lire et méditer les Écritures, sans prier. Et nous voyons aujourd'hui les chrétiens, ils ont du plaisir, vous les trouverez 3 ou 4, ils sont chrétiens, mais ils sont toujours en train de parler du mal d'un tel serviteur de Dieu, d'un tel pasteur, d'un tel enfant de Dieu. Ça, ce sont des choses inadmissibles. Voilà les endroits où on doit quitter, parce que ça, ce sont des endroits qui ne nous concernent pas en tant que fils et filles de Dieu. Notre Dieu, merci. Tu nous as bénis ce soir au travers ta parole. Donne-nous à la mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, à prier pour nos familles pour éviter des dégâts, à prier pour nos enfants, à prendre nos responsabilités en tant que parents, à éviter des ruses. Aujourd'hui, il y en a plein dans l'Église, à éviter des ruses. Bénis-nous, Seigneur, nous qui aimons ta parole, nous qui aimons le royaume, nous qui aimons vraiment rester ensemble, nous rassasier ensemble ta parole. Bénis chacun et chacune, bénis nos maisons, bénis la prière que nous allons avoir tout à l'heure. Attire plusieurs de ton peuple à aimer la prière, à aimer la parole. Que la bénédiction se repose sur tous les membres de FIMES, sur nos maisons et sur tout ce que nous sommes appelés à faire. Et que la gloire te revienne, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.
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 Merci, Papa José. Un dernier mot, une dernière instruction pour la veillée.
Oui, nous allons reprendre à écart, 22h écart ou 20h écart, ça dépend de là où on se trouve. Et je rappelle rapidement le numéro de téléphone.